Chapitre 23. Blois. Pendant que Pardaillan courait sur la route de Dunkerque et s'emparait de la lettre destinée à Farnèse, le duc de Guise, au milieu d'une imposante escorte, s'avançait vers Blois, où, de tous les points de la France, accouraient les députés de la noblesse, du clergé et du tiers-état, pour cette suprême conférence à laquelle Henri III avait convié son peuple et qu'on appelle les États généraux de Blois. La sécurité de Guise était absolue. Maurevers lui avait rendu un compte exact des forces dont Henri III pouvait disposer. Ses forces étaient considérables et, de plus, elles étaient sous la main d'un hardi capitaine qui avait fait ses preuves sur plus d'un champ de bataille, tant comme courage que comme stratégie. C'était le brave Crillon. Les troupes de Crillon occupaient le château et la ville. Évitant de disséminer ses soldats aux environs et de tenir campagne, Crillon avait fait de Blois une formidable caserne et, comme un jour la reine-mère lui demandait si le roi était en parfaite sûreté, il avait répondu « Madame, si je n'étais là, il faudrait 20 000 hommes pour atteindre le roi. Mais comme je suis là, il en faut 40 000 ». Catherine avait souri comme elle savait sourire et elle-même avait ajouté « Je suis là moi aussi, et je commande à une petite armée de flacons qui vaut bien à elle seule les 40 000 hommes dont parle le brave Crillon. » Le roi était donc défendu, bien défendu. Il pouvait même tenter quelques coups de force si cela lui plaisait. Malgré cela, nous l'avons dit, la sécurité de Guise était complète. Il savait en effet que chacun des 150 gentilshommes qui l'accompagnaient avait mis en lui toutes ses espérances et toute sa fortune future. Il n'en était donc pas un qui ne fût prêt à se faire massacrer pour sauver le chef. Il savait en outre qu'une fois arrivé à Blois, il allait trouver les députés des trois ordres et que parmi ces députés, seigneurs, bourgeois, prêtres, il n'en était pas un qui ne lui fût dévoué corps et âme. En réalité donc, il allait être le véritable maître aux États généraux. Valois n'avait pour lui que les soldats, quantité négligeable si on parvenait à s'emparer de Crillon. Les soldats dont la paix était d'ailleurs fort arriérée et qui, selon le rapport de Maurevers, avaient déjà failli se mutiner. C'est de ces diverses choses que causait Guise pendant sa dernière journée de marche. Il était entouré à ce moment de 8 ou 10 de ses plus intimes qui, formant peloton, marchaient en avant du gros de l'escorte. Et peu à peu, dans ce groupe d'intimes, une sélection s'était faite, en sorte que le duc avait fini par se trouver en avant, entre Bussy-Leclerc et Menneville, ses inséparables, ceux pour qui il n'avait rien de caché. Le gros-duc de Mayenne venait vers le milieu de l'escorte et s'enquérait déjà des gîtes qu'on pouvait trouver à Blois et de la possibilité de faire bonne chère. Le cardinal était en queue, causant avec les plus intelligents de la bande. Ainsi, des trois frères, l'un occupait les soudards, l'autre intéressait les goinfres et le troisième réunissait autour de lui les politiques. Dans le petit clan que formaient le duc et ses deux fidèles agents, il était tout naturellement question de Pardaillan. « Enfin, disait Menneville, nous voilà débarrassés du quidam. Mais pour mon compte, j'en éprouve quelques regrets. La noyade fut trop douce pour lui. » « C'est vrai, renchérit Bussy-Leclerc. « Et quant à moi, j'eusse éprouvé quelque plaisir à lui rendre... »« La leçon d'escrime qu'il te donna ?» fit Menneville en riant. « Non, pardieu, cela, je le lui ai rendu. Ne te rappelles-tu pas que je le désarmais dans la Bastille ?»« Je n'y étais pas... ainsi. »« Mais Maurevers y était. Est-ce vrai, Maurevers ?»« Parfaitement vrai, » fit Maurevers qui marchait derrière Guise. Tu lui fis sauter l'épée des mains par 3 fois et le truand dut s'avouer vaincu. Bussy-Leclerc eut un geste de vive satisfaction et remercia Maurevers d'un regard. « Bon, pensa Maurevers, en voilà un qui pourra me servir mieux qu'il ne pense. » On arrivait au village de Villerbon. « Allons, messieurs, » dit Guise d'une voix sombre, « ne parlons plus des morts. » Il songeait à Violetta. Un soupir étouffé gonfla sa poitrine. Puis, secouant la tête, comme pour vraiment ne plus songer aux morts, « Bussy, pique donc un galop jusqu'à ces cavaliers que tu vois là-bas et sache ce qu'ils veulent. » Sur la place de l'église dans le village, une 60aine de cavaliers, en effet, étaient arrêtés, mais Bussy-Leclerc n'eut pas le temps d'exécuter l'ordre qu'il venait de recevoir. Les cavaliers venaient d'apercevoir la troupe de Guise et galopaient à sa rencontre. Un instant, Guise se troubla et sa main descendit jusqu'à la poignée de fer de sa rapière. L'idée qu'Henri III lui avait ménagé un guet-apens passa dans son esprit comme un éclair. Mais il se rassura bientôt. Les cavaliers étaient sur lui et criaient « Monseigneur, vous êtes le bienvenu !» C'était une troupe de gentilshommes députés par les seigneurs assemblés dans Blois pour aller à sa rencontre, le saluer et l'assurer de toute fidélité. Guise rayonna, et comme ces gentilshommes se mêlaient à ceux de son escorte, il leur rendit salut pour salut et s'écria « Maintenant, messieurs, j'ai une escorte royale !» Le mot était peut-être dit sans intention, mais il courut de bouche en bouche jusqu'au dernier rang de la cavalcade et chacun y vit clairement les intentions secrètes du duc. Quoi qu'il en soit, ce fut donc à la tête de cette compagnie ainsi renforcée que le Balafré traversa Villerbon. Il prit alors un trot allongé et, comme midi sonnait, toute cette cavalcade parut en vue de Blois. À ce moment, le roi de France, pâle et nerveux, se trouvait dans l'appartement qu'il occupait au premier étage du château, appartement que nous aurons à décrire bientôt. Pour le moment, disons seulement qu'il y avait là un vaste salon qui s'ouvrait sur un grand escalier. Cet escalier lui-même donnait sur une terrasse qui s'appelait la Perche aux Bretons. Henri III, avec une agitation qui contrastait avec son indolence habituelle, allait et venait, s'approchait souvent d'une fenêtre d'où il pouvait voir la cour carrée et le porche majestueux du château. Henri III attendait le duc de Guise. Sur la terrasse de la Perche aux Bretons, il y avait 50 gentilshommes armés en guerre. Une compagnie de Suisses occupait la cour carrée. Le grand escalier était plein de seigneurs royalistes dont le sombre visage annonçait qu'ils n'attendaient rien de bon de l'arrivée du duc. Toutes les autres cours et les autres escaliers du château étaient occupés par des gendarmes, archers, arquebusiers et mousquetaires. Enfin, toutes les précautions avaient été prises pour recevoir dignement notre aimé et féal cousin de Lorraine, avait dit Catherine de Médicis. Dans le salon lui-même, une vingtaine de gentilshommes attendaient, silencieux et les yeux fixés sur le roi. Dans un coin, Catherine de Médicis, causant avec son confesseur, contrasté par sa sérénité et sa gaieté, avec toute cette sombre impatience. « Où est Biron ? Est-il de retour ?» fit tout à coup Henri III, après avoir jeté pour la 20e fois un regard par cette fenêtre, d'où il apercevait le porche, et, au-delà du porche grand ouvert, une belle place où Crillon, en ce moment, achevait de ranger 3 compagnies de gardes. « Sire, me voici !» fit le maréchal de Biron. Armand de Gontaut, baron de Biron, était alors âgé de 64 ans. Mais il portait encore la cuirasse avec une facilité que lui enviait de plus jeune. Il avait mieux que la force, il avait la fierté paisible d'un honnête homme. Catholique, il avait fait partie de cette faible minorité de vaillants qui avait essayé de s'opposer au massacre de la Saint-Barthélemy. C'est ainsi qu'en sa qualité de grand maître de l'artillerie, il avait pu soustraire à l'arsenal où il était logé une 40aine de malheureux huguenots à l'horrible soif des buveurs de sang. « Ah, te voilà, mon vieux brave !» dit Henri III. « Je craignais que tu ne fusses pas ici aujourd'hui, car je t'avais donné congé pour 8 jours. »« Oui, mais j'ai appris l'arrivée de monsieur le duc. Peste, sire, je n'aurais eu garde de manquer une si belle occasion de lui présenter mes respects. Je suis revenu d'Amboise tout d'une traite. » Le roi se mit à rire, les gentilshommes éclatèrent, et Catherine murmura à son confesseur « Allons, voici l'enfant qui reprend courage. »« Eh, sire, vous voyez que je suis arrivé à temps. » En effet, à ce moment même, une rumeur montait de la cour carrée. C'était un bruit de chevaux qui passaient sous le porche, un cliquetis d'armes et d'éperons de cavaliers mettant pied à terre. Henri III pâlit, mais on peut dire que c'était la rage contenue plus encore que la crainte. « Comte de Loigne, » dit-il d'une voix altérée, « voyez donc ce qui se passe dans la cour. » Il le savait très bien. Il devinait que c'était Guise qui arrivait. Et avant d'avoir reçu aucune réponse, il se dirigea vers un grand fauteuil placé sur une estrade et formant trône. Il s'y assit et, d'un geste rageur, enfonça son chapeau sur son front. « Sire !» s'écria Chalabre, qui s'était précipité à la fenêtre en même temps que Loigne. « C'est monsieur le duc de Guise, que Dieu le tienne en sa garde !»« À moins que le diable ne l'emporte !» murmura Montsery près du roi. « Ah !» fit Henri III d'un ton d'indifférence si parfaitement joué qu'il stupéfia jusqu'à sa mère. « Tiens, le duc de Guise, et que peut-il venir faire Séan ?»« Nous allons le savoir, sire, car le voici qui monte le grand escalier. » C'était vrai, dans le grand escalier, on entendait la rumeur confuse d'une foule qui monte. Cette foule, c'était toute l'escorte du duc qui l'accompagnait jusqu'à la porte du roi. Il y avait là une menace qui n'échappa point à Crillon. Celui-ci, donc, s'était mis à marcher devant le duc de Guise, sous prétexte de lui faire honneur. Arrivé devant la porte du salon, il se tourna vers les gentilshommes guisards et dit « Monseigneur, monsieur le duc de Mayenne, monsieur le cardinal, le roi m'a chargé de vous faire savoir qu'il vous accorde audience. Quant à vous, messieurs, veuillez attendre. » « Quoi ? » gronda Bussy Leclerc. « Sur l'escalier ?»« Où vous voudrez ?» dit Crillon en fronçant les sourcils. « La paix, Bussy !» dit le duc de Guise. « Messieurs, veuillez m'attendre. Monsieur de Crillon, puisque sa majesté daigne nous recevoir, nous sommes prêts à vous suivre. » L'escorte demeura donc échelonnée dans l'escalier. Et comme cet escalier était déjà occupé par un grand nombre de seigneurs royalistes et de gendarmes, il en résulta qu'il se trouva plein de gens qui se regardaient de travers et qui, sur un mot, sur un signe, se fussent rués les uns sur les autres. Cependant, tous observaient le plus grand silence, non seulement par respect, mais pour tâcher d'entendre quelque éclat de voix qui leur apprendrait la tournure que prenait l'audience. Crillon avait ouvert la porte, fait entrer messieurs de Lorraine et soigneusement refermé lui-même la porte. Les trois frères s'avancèrent vers le fauteuil où Henri III, le chapeau sur la tête, le coude sur le bras du trône, le menton dans la main, les regardait venir sans un geste, sans un tressaillement de la physionomie. Le duc marchait le premier. Mayenne et le cardinal venaient ensuite sur la même ligne, Mayenne roulant de gros yeux et au fond de lui-même, envoyant la politique et l'ambition de ses frères à tous les diables. Le cardinal, la tête haute, la main à la garde de l'épée, son regard noir fixé sur le roi. Le duc de Guise, moins habile qu'Henri III à dissimuler ses sentiments, n'avait pu s'empêcher de pâlir devant la réception hautaine et glaciale qui lui était faite. Il s'arrêta à trois pas du trône et s'inclina profondément ainsi que ses frères. Puis, se relevant, il attendit que le roi lui adressât la parole. Il y eut un instant de silence terrible et tragique où l'on eût entendu voler une mouche dans ce salon rempli de gentilshommes. Enfin, le roi abaissa son regard sur le duc et, de sa voix légèrement nasillante, d'une rare impertinence quand il le voulait, il demanda « C'est vous, monsieur le duc, qu'avez-vous à nous dire ?»